Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Femmes, Vie, Liberté.
Une émission consacrée aujourd'hui à des femmes importantes qui ont marqué l'histoire.
En effet, nous découvrirons qui elles sont, ce qu'elles ont fait.
Pour cette occasion, des chroniqueurs sont présents afin de vous présenter ces grandes figures.
Alors installez-vous confortablement et bonne écoute.
Tout d'abord, Susan qui présentera Josephine Baker, artiste mondialement connue, danseuse, chanteuse, mais aussi résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est battue pour la liberté, l'égalité et contre le racisme, devenant une véritable figure de courage et d'engagement. À ses côtés, Mélina qui présentera ensuite Marie Curie, une grande scientifique du XXe siècle, première femme à recevoir un prix Nobel et même la seule à en avoir obtenu dans deux domaines différents. Elle a marqué l'histoire par ses découvertes sur la radioactivité et par son engagement pour la science. Ensemble, ils vont nous faire découvrir ces deux femmes exceptionnelles qui ont marqué leur époque et dont l'héritage résonne encore aujourd'hui.
Josephine Baker naît en 1906 aux États-Unis dans un contexte de ségrégation raciale. Très jeune, elle est confrontée au racisme et à la pauvreté. Dans les années 1920, elle part en France où elle devient une artiste célèbre des années folles. Danseuse et chanteuse, elle connaît un immense succès et adopte la France comme pays de cœur. Elle obtient la nationalité française en 1937. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage dans la résistance. Elle utilise sa notoriété pour transmettre des informations aux alliés. Pour son courage, elle reçoit plusieurs décorations, dont la Légion d'honneur. Après la guerre, elle lutte contre le racisme et soutient les droits civiques. Elle adopte 12 enfants de différentes origines, sa tribu arc-en-ciel, pour défendre l'idée de la fraternité. Elle meurt en 1975, laissant l'image d'une femme libre et engagée. En 2021, elle entre au Panthéon, devenant la première femme noire à recevoir cet hommage en France.
Merci. Est-ce que les gens connaissent tout ce dont vous venez de parler, Susan ? Vous êtes allée les interroger sur ce qu'ils savaient de Josephine Baker. Je vais maintenant proposer à nos auditeurs d'écouter ce micro-trottoir.
Pouvez-vous nous décrire Josephine Baker en un mot ?
Je dirais donc une danseuse d'origine américaine qui a été très engagée, mais je sais que ça fait plus d'un mot. Elle a été panthéonisée notamment pour son action dans la résistance française et aussi pour son engagement vis-à-vis des enfants contre le racisme.
Qu'est-ce que vous pensez de sa panthéonisation ?
Je trouve que c'est une bonne chose, effectivement, qu'on panthéonise et des femmes et des personnes qui contribuent à faire avancer les idées, ce dont nous avons bien besoin.
Est-ce que vous aurez une idée d'une autre personne que vous souhaiteriez voir panthéonisée ?
Peut-être panthéoniser un soldat de la Deuxième Guerre mondiale ou peut-être, un tirailleur sénégalais, par exemple, c'est-à-dire tous ceux qui ont pu symboliquement être oubliés par la République et qui sont morts pour ces valeurs.
Moi, j'aurais dit la générosité ou le courage.
Pouvez-vous nous dire, si vous le savez, pourquoi a-t-elle été panthéonisée ?
Josephine Baker est une grande résistante, une grande femme, une grande chanteuse, un grand personnage de l'histoire du XXe siècle. Donc elle a toute sa place au Panthéon, parmi les grandes femmes et les grands hommes. En fait, il faut rappeler à tout le monde, et en particulier aux jeunes générations, que Josephine Baker, c'est une Américaine qui est née à Saint-Louis, il me semble, et qui, en fait, est tombée amoureuse de la France, de Paris et aussi de la France, et qu'on peut donc mourir pour la France ou donner sa vie pour la République sans forcément être... d'origine française, voilà, Josephine Baker, elle est tombée amoureuse de la France, elle est devenue française par choix et par amour.
Et du coup, est-ce que vous aurez, vous, une idée d'une personne à panthéoniser, une personne que vous aimeriez voir panthéoniser prochainement ?
Je suis les préconisations de Benjamin Stora, je pense à Gisèle Halimi.
Quoi, cette personne en particulier ?
Gisèle Halimi, pour son engagement pour les droits de la femme et pour son engagement en faveur de la paix en Algérie, et la paix, ça voulait dire l'indépendance.
On voulait savoir si vous pouviez nous décrire Josephine Baker en un mot.
Je vois des bananes, parce que je sais qu'elle avait une petite robe de banane, mais en même temps, je trouve qu'aujourd'hui, ça passerait plus. Peut-être la liberté, je trouve que c'est une femme qui était libre.
Pour vous, pourquoi a-t-elle été panthéonisée ?
Je ne connais pas trop la vie de Josephine Baker. J'attends que certains m'en disent un peu plus. Mais je pense que c'est cette image d'une femme émancipée au début du siècle, Et je sais aussi qu'elle avait distribué des repas pendant la crise de 29 et qu'elle avait participé à... Voilà. Et je sais qu'elle a eu un rôle dans la résistance, mais je ne pourrais pas vous en dire.
Que pensez-vous de sa panthéonisation ?
Panthéoniser une femme, déjà, c'est bien, parce qu'il y en a, il y en a très peu. Une femme qui n'est pas née en France, je crois, en plus. Donc, ça montre la réussite de l'intégration. Et une femme de couleur, de surcroît. Je pense que voilà, les trois symboles sont très positifs.
Êtes-vous quelqu'un que vous aimeriez voir au Panthéon ?
Gisèle Halimi, je pense que c'est quelqu'un qui doit y être.
Pouvez-vous nous décrire Joséphine Baker en un mot ?
Ceinture de banane.
Pour vous, pourquoi a-t-elle été panthéonisée ?
Alors, je n'ai pas trop d'informations sur Joséphine Baker. Je sais que ça a été une femme forte, résistante dans l'histoire et que c'est une des sept femmes qui sont panthéonisées aujourd'hui.
Que pensez-vous de sa panthéonisation ?
C'est bien qu'une femme de plus soit au Panthéon, car je pense qu'elles doivent être plus représentées aujourd'hui comparées aux hommes et que c'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles sont moins importante.
Pouvez-vous nous décrire Joséphine Baker en un mot ?
Alors en un mot, non. C'était une grande artiste déjà. Et puis ça a été une dame qui a été, je dirais, politisée. Qui s'est politisée parce qu'elle a souffert. Comme on le sait, c'est une Américaine. Elle est née aux États-Unis et sa seconde patrie est devenue la France, notamment Paris. Et c'est là où on a pu, on a accepté sa couleur de peau alors qu'elle n'était pas acceptée aux États-Unis. Par la suite, elle est rentrée, comme on le sait, dans la résistance. Elle a beaucoup œuvré. Et c'était une dame également qui a fait beaucoup pour l'enfance. Elle a recueilli des enfants abandonnés, des orphelins.
Pour vous, pourquoi a-t-elle été panthéonisée ?
Comme elle est devenue française, elle a réussi à avoir la nationalité française. Elle a voulu, je pense, rendre à la France ce que la France lui avait offert pour les actions de résistante qu'elle a effectuées lors de la Seconde Guerre mondiale.
Que pensez-vous de sa panthéonisation ?
C'est lui rendre hommage. Tout ce qu'elle a fait pour la France, et puis aussi, il faut le remettre dans son contexte, c'était une femme noire, et surtout, avant tout, c'était une femme. Donc une femme qui rentre au Panthéon, c'est toujours bienvenue.
Qui souhaiteriez-vous voir panthéoniser ?
Écoutez, c'est une question, c'est une très bonne question. Il faudrait que j'y réfléchisse, là, brûle pour point, je ne saurais vous répondre.
Nous avons pu remarquer que Joséphine Baker est une femme peu connue des gens que nous avons interviewée. Nous la connaissons souvent de nom et pour sa danse avec la ceinture de banane, mais pas pour tous ses combats.
Merci Susan, on voit bien à quel point Joséphine Baker reste une figure marquante et inspirante encore aujourd'hui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après une artiste engagée et résistante, place maintenant à une femme qui a révolutionné le monde de la science. Changement d'univers, direction les laboratoires avec une scientifique d'exception, Marie Curie. C'est Mélina qui va maintenant nous la présenter.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme qui a marqué l'histoire de la science et de la France, Marie Curie. Née en 1867 à Varsovie, en Pologne, sous le nom de Maria Słodowska, elle arrive à Paris pour poursuivre ses études à la Sorbonne. À une époque où très peu de femmes font des études scientifiques, elle choisit la physique et les mathématiques, des domaines réservés presque exclusivement aux hommes. Avec son mari Pierre Curie, elle travaille sur un phénomène encore mystérieux à l'époque, la radioactivité. Ensemble, ils découvrent deux nouveaux éléments chimiques, le polonium, nommé en hommage à son pays d'origine, et le radium. Mais Marie Curie ne s'arrête pas là. Elle devient en 1903 la première femme à recevoir un prix Nobel en physique. Puis, en 1911, elle reçoit un deuxième prix Nobel, cette fois en chimie. Elle est encore aujourd'hui la seule personne à avoir obtenu deux prix Nobel dans deux disciplines scientifiques différentes. Pendant la Première Guerre mondiale, elle met aussi la science au service de la vie. Elle développe des unités de radiographie mobile, surnommées les Petites Curies, pour soigner les soldats blessés sur le front.
Merci. Je vous pose la même question qu'à Susan. Les gens savaient-ils tout cela sur la figure emblématique qu'est Marie Curie ? Et donc, on va également écouter le micro-trottoir que vous avez réalisé.
Bonjour, alors je suis une élève de terminale et j'aimerais savoir si ça te dérangeait de faire un micro-trottoir sur Marie Curie.
Il n'y a pas de souci.
Premièrement, est-ce que tu sais c'est qui Marie Curie déjà ? Et si oui, quels sont ses principaux accomplissements ?
C'est une scientifique et il me semble qu'elle a fait des découvertes dans la radiologie. Alors, je connais Marie Curie globalement, on va dire. Je ne peux pas dire tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Je situe qui c'est, je situe certaines choses qu'elle a réalisées. Mais franchement, là, on parlait comme ça.
Est-ce que vous savez à peu près dans quel domaine elle était ou pas du tout?
Elle était dans les sciences. Je crois qu'elle était dans la radioactivité, il me semble. Franchement, j'en sais pas plus.
Alors, je connais Marie Curie de nom. Je sais que c'est une scientifique et qu'elle était d'origine polonaise, polonaise même, et qu'elle a trouvé le plutonium, je crois, et que le plutonium, le nom vient de la Pologne, d'ailleurs. Pologne-plutonium, voilà.
Quels sont pour vous les critères et les arguments pour qu'une personne soit panthéonisée, pardon ?
Pour moi, les personnes panthéonisées doivent représenter des symboles républicains. Voilà, ce sont des sortes de modèles, de références. Surtout quand on perd un peu nos valeurs, eh ben, on peut se référer à ces personnes-là en se disant ben voilà, c'est des modèles pour nous. Et Marie Curie, ben, c'est une femme dans un monde patriarcal à cette époque qui a lutté pour se faire entendre et dont on parle encore aujourd'hui, un siècle après sa mort, quoi. Donc, elle a gagné.
Ben ouais, je connais un peu vite fait Marie Curie. Je sais que, notamment, elle était une des pionnières dans la découverte de la radioactivité. Qu'elle en est morte, d'ailleurs, parce qu'elle travaillait sur du plutonium, du radium, et que ça l'a tuée. En vrai, j'en sais pas beaucoup plus. Je sais que après ces découvertes et celles d'autres chercheurs sur le radium et sur plein d'autres choses, il y a eu beaucoup de commerce et de trucs qui se sont faits sur la radioactivité et tout, et sur... c'est un peu le tout début de l'ère atomique, quoi.
Le vaccin, non, c'était pas un vaccin. Je sais pas ce qu'elle a fait.
Donc Marie Curie, elle a été panthéonisée. Est-ce que vous savez quels sont pour vous les critères ou les arguments qu'on met en avant pour qu'une personne soit panthéonisée?
Pas du tout.
Oui, je la connais et je sais qu'elle a fait la radioactivité avec son mari. C'est tout.
Marie Curie a inventé la radio pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et est-ce que vous savez quels sont les critères pour qu'une personne elle soit panthéonisée?
Non.
On constate que beaucoup de personnes connaissent mal aujourd'hui Marie Curie, malgré son rôle majeur dans l'histoire des sciences.
Les femmes que Susan et Mélina nous ont présentées ont été panthéonisées. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Nos chroniqueuses Lily et Alban vont désormais nous l'expliquer.
La panthéonisation n'est pas seulement un simple hommage national à une personnalité, mais une entrée dans la dimension historique de la République française.
Oui, en effet, la République française est au centre de la panthéonisation. Les personnalités à qui l'on rend hommage représentent la République en elle-même par les valeurs liberté, égalité, fraternité, mais aussi la justice.
C'est pourquoi la panthéonisation est une reconnaissance rare et prestigieuse qui est donnée à certaines personnalités qui, par leurs combats, leurs engagements ou leurs créations, ont incarné les valeurs de la France.
D'ailleurs, le lieu de du Panthéon était au départ une église. En 1791, pendant la Révolution française, la dépouille du comte de Mirabeau fut le premier homme à être reconnu en tant que grand homme honoré par la nation et à être enterré là-bas. Depuis, 82 personnes ont reçu l'honneur d'entrer au Panthéon, dont 75 hommes et 7 femmes.
C'est un acte tellement symbolique pour la France que c'est le président lui-même qui choisit qui pourra rentrer au Panthéon. Chaque nouvelle entrée enrichit l'histoire de la France et rappelle le parcours de ces grandes figures et de leur impact en France et dans le monde.
La panthéonisation, c'est pas seulement honorer une personne ou une œuvre, mais la célébration d'un parcours singulier dont l'histoire collective et de rappeler que les destins honorés dans ce cadre sont liés à des combats bien plus vastes.
Alors une question importante se pose, pourquoi Joséphine Baker et Marie Curie ont-elles été panthéonisées? Engagement, courage, découverte, lutte pour la liberté. Mélina, pouvez-vous nous expliquer ce qui a conduit cette femme exceptionnelle à entrer au Panthéon?
Marie Curie est entrée au Panthéon en 1995. Elle est la première femme à y avoir été transférée pour ses propres mérites scientifiques. Si elle a été panthéonisée, c'est parce qu'elle a profondément marqué l'histoire grâce à ses découvertes sur la radioactivité, notamment le polonium et le radium. Elle a reçu 2 prix Nobel, en physique et en chimie, ce qui est exceptionnel. Elle est également reconnue, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant la Première Guerre mondiale, où elle a contribué à développer des unités de radiographie mobile pour soigner les soldats blessés. Son entrée au Panthéon symbolise la reconnaissance de son travail, de son courage et de son immense contribution à la science et au progrès médical.
Merci. Je vais maintenant proposer à nos auditeurs d'écouter une partie du discours prononcé par François Mitterrand lors de l'entrée au Panthéon de Marie Curie.
Mais il est un autre symbole qui retient ce soir l'attention de la nation, que j'ai l'honneur d'exprimer devant vous. Celui du combat exemplaire d'une femme qui a décidé d'imposer ses capacités dans une société qui réserve aux hommes les fonctions intellectuelles et les responsabilités publiques, enfin qui les réserve trop souvent.
Après cet extrait du discours de François Mitterrand, place à leur cérémonie que Lily et Alban vont maintenant nous présenter.
Le 20 avril 1995, une foule nombreuse se rassemble devant le Panthéon à Paris. L'atmosphère est solennelle, les drapeaux flottent et les gardes républicains encadrent la cérémonie. Les cercueils de Marie Curie et de son mari Pierre Curie, recouverts de drapeaux français, sont portés sur les épaules de jeunes étudiants en sciences. Le cortège avance lentement, au son d'une musique grave, sous le regard attentif du public et des autorités. Dans l'assistance se trouvent des membres de leur famille, des représentants de l'État et des personnalités scientifiques. Le président de la République, François Mitterrand, prononce le discours officiel. Il rend hommage à son parcours exceptionnel et souligne l'importance de son entrée au Panthéon, un honneur réservé aux grandes figures de l'histoire française. Puis vient le moment central. Les cercueils entrent dans le Panthéon et sont descendus dans la crypte. Ce geste marque leur entrée parmi les grands noms de la nation et clôt une cérémonie solennelle, empreinte de respect et d'émotion. Comment est-ce que ça s'est passé pour Joséphine Baker, Lily ?
Comme Marie Curie, Joséphine Baker a eu une cérémonie marquante. Au jour de son 80e anniversaire de sa naturalisation, le 30 novembre 2022, son cénotaphe, qui est un cercueil dépourvu de la dépouille de Joséphine Baker, est accueilli au Panthéon par l'armée de l'air. Une aviatrice porte sur un coussin ses 5 décorations qui marquent son engagement dans la Résistance et dans la France libre. Parmi ces décorations, il y a la Légion d'honneur et la médaille commémorative des services volontaires de la France libre. Le choix du cénotaphe est venu des enfants de Joséphine Baker qui ont voulu que leur mère reste enterrée à Monaco. À la place de sa dépouille, il y a 4 morceaux de terre, de lieux qui ont été importants pour elle. Paris, Monaco, Saint-Louis et le château des Mainlandes. La panthéonisation de Joséphine Baker fut accompagnée par l'interprétation du chant des partisans par le chœur de l'armée française pour rendre hommage à son rôle dans la Résistance, et puis ensuite par l'interprétation de sa chanson très connue « J'ai deux amours » que nous allons écouter un peu plus tard dans l'émission. Enfin, la cérémonie s'achève sur le discours du président Emmanuel Macron lors de son premier mandat. L'on peut retenir de son discours sur une insistante de l'universalisme et de la fraternité qui sont les valeurs que Joséphine Baker apprenait toute sa vie dans ses combats, son engagement, mais aussi son art.
Merci. Mélina nous l'a déjà expliqué pour Marie Curie. Maintenant, Lily, pouvez-vous nous expliquer quels ont été les éléments qui ont fait que Joséphine Baker ait été panthéonisée elle aussi ?
Joséphine Baker a été panthéonisée afin de saluer son parcours exceptionnel et son dévouement envers la France. Elle ne s'est pas distinguée uniquement comme artiste internationale, mais aussi comme femme engagée et déterminée. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle a pris part activement à la lutte contre l'occupation nazie. Elle a mis sa célébrité au service de la France libre en transmettant des informations confidentielles. Son engagement lui a valu des hautes distinctions militaires. Après la guerre, elle a poursuivi son combat contre la discrimination raciale. Elle s'est mobilisée pour l'égalité des droits et la dignité humaine. En adoptant des enfants de différentes origines, elle a défendu l'idée de tolérance et de vivre ensemble. Sa panthéonisation en 2022 intervient dans un contexte marqué par de nombreux débats sur le racisme, la mémoire coloniale et la place des minorités dans l'histoire de France. La société française réfléchit alors davantage à la reconnaissance des figures issues de la diversité. Son entrée au Panthéon représente donc aussi un symbole fort d'inclusion et de justice. Elle incarne les principes fondamentaux de la République, liberté, égalité et fraternité. En honorant son courage, la nation montre son engagement humaniste et son importance dans l'histoire française.
Merci Lily de nous avoir expliqué. Maintenant, nous allons écouter Joséphine Baker avec son célèbre morceau « J'ai deux amours ».
Ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Parle toujours, mon cœur est ravi. Ma savane est belle, mais à quoi bon nier ce qui mon seul seul sait, Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli.
Après avoir découvert ces parcours exceptionnels, on se rend compte à quel point ces femmes ont marqué l'histoire.
Oui, et leur entrée au Panthéon montre que la République reconnaît enfin leur parcours.
Mais finalement, est-ce qu'il reste encore des femmes qui mériteraient elles aussi d'entrer au Panthéon ?
C'est vrai, l'histoire ne manque pas de figures inspirantes, et pourtant on se dit qu'elles ne sont pas toutes reconnues à la hauteur de leur engagement.
Justement, nos chroniqueuses Suzon et Romy veulent nous parler d'une femme qu'elles aimeraient voir au Panthéon.
Alors, écoutons-les tout de suite.
Merci beaucoup. Je vais vous parler d'Olympe de Gouges, qui est une femme du XVIIIe siècle au parcours hors du commun. Elle naît en 1748 à Montauban, sous le nom de Marie Gouze. Très jeune, elle est mariée à un homme plus âgé, Louis Aubry, avec qui elle a un fils, avant de se retrouver veuve au bout de quelques années. Plutôt que de rester à Montauban et de se remarier, elle part pour Paris avec son fils et décide de se reconstruire une nouvelle vie. Là, elle change de nom et devient Olympe de Gouges, comme pour marquer une rupture avec son passé. À Paris, elle fréquente les salons, rencontre des gens de lettres, mène une existence plus libre que la plupart des femmes de son époque, ce qui lui vaut à la fois admiration et critique. Lorsque la Révolution française éclate, elle se retrouve dans une période très agitée, où ses prises de position publiques et son caractère indépendant attirent l'attention. Dans le climat de violence de la terreur, elle est arrêtée, jugée, puis condamnée. Olympe de Gouges est guillotinée à Paris en 1793 à l'âge de 45 ans.
Olympe de Gouges est une femme qui s'est battue pour toutes les femmes après elle. C'est une grande défenseuse des droits humains et elle est l'une des premières figures publiques à s'opposer à l'esclavage en France. Ses premières pièces de théâtre et ses grands pamphlets traitent de beaucoup de sujets différents, comme le divorce, les droits des enfants ou encore le chômage. Olympe de Gouges réagit positivement à l'arrivée de la Révolution française, mais elle se rend compte que l'égalité des droits n'est pas accordée aux femmes. Alors, en 1791, après la publication des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle publie alors la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Dans sa déclaration, elle remet en question les actes de l'autorité masculine et plaide en faveur de l'égalité des droits pour les femmes. Nous avons choisi de présenter Olympe de Gouges pour une prochaine panthéonisation, car elle s'est battue pour faire entendre sa voix, ses idées et surtout pour faire valoir ses droits et ceux des autres femmes dans un monde dominé par les hommes. C'est une grande pionnière du féminisme. Nous avons choisi Olympe de Gouges car nous voulons que sa voix résonne encore et que ses idées continuent de se transmettre. Mais surtout, la lutte d'Olympe de Gouges est toujours aussi importante pour poursuivre notre combat contre les inégalités.
Enfin, est-ce que vous auriez des exemples de lectures à conseiller à nos auditeurs s'ils veulent en apprendre encore davantage sur les figures que vous nous avez présentées durant l'émission ?
Nous ne pouvions pas finir cette émission sans quelques petites recommandations. Tout d'abord, il y a le roman graphique Joséphine Baker de Catel et Boquet. Cette bande dessinée raconte la vie de la petite danseuse américaine qui arrive à Paris et qui devient en une seule nuit l'idole des années folles. Le roman graphique est particulier car il illustre parfaitement bien l'extravagance de Joséphine Baker avec ses visuels. De plus, la bande dessinée rend la lecture ludique et convient à tout le monde.
Ensuite, pour ma part, je vais vous parler d'un second livre. Femmes scientifiques, 23 portraits qui nous inspirent, qui nous a servi de référence pour rédiger la biographie de Marie Curie. Ce livre consacre un chapitre à Marie Curie où il retrace son parcours, ses débuts en Pologne, ses études à Paris et surtout ses découvertes majeures sur la radioactivité. Le texte montre aussi sa détermination et son courage face aux obstacles en tant que femme scientifique à son époque. Pour Olympe de Gouges, on ne pouvait pas parler d'un livre sans évoquer la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, écrite par Olympe de Gouges en 1791. C'est une réponse face à celle des hommes qui ignorent les femmes. Elle reprend, article par article, ses principes, liberté, égalité, souveraineté. Mais pour elle, début de la citation, « la femme naît libre et demeure égale à l'homme », fin de la citation, avec droit de vote, d'élection, de divorce et participation à la loi. C'est un texte court mais très direct qui parle de toutes les injustices faites aux femmes de son époque et qui résonne encore à l'heure d'aujourd'hui.
Enfin, nous avons aussi décidé de présenter un autre livre que celui de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est un roman graphique de la même édition que celui de Joséphine Baker, qui est la bande dessinée Olympe de Gouges de Catel et Boquet. C'est donc la biographie de cette grande femme. Cette BD met en avant toute l'histoire d'Olympe de Gouges de manière visuelle tout en restant factuelle.
Et voilà, notre émission « Femmes, vie, liberté » touche à sa fin.
Aujourd'hui, nous avons découvert des parcours des femmes inspirantes.
Leur entrée au Panthéon, ou peut-être leur future entrée, nous rappelle que la mémoire est essentielle.
Et que reconnaître ces femmes, c'est aussi faire vivre les valeurs de la République.
Nous remercions nos chroniqueurs pour leurs interventions.
Ainsi que l'équipe technique qui a rendu cette émission possible.
Merci également à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis.
On espère que cette émission vous aura plu.
Merci, au revoir.